France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1992, Les Chemins de la Connaissance proposaient une série de 5 émissions intitulée « Cette illusion que la perspective invente ». Dans le deuxième volet, Stéphanie Katz rencontrait Hubert Damisch, auteur de « L'origine de la perspective ». Disparu en 2017, Hubert Damisch se reconnaissait mal dans les titres de philosophe et d'historien de l'art qu'on ne pouvait cependant pas lui contester. « J'ai les plus grands doutes sur la pertinence de la notion d'histoire de l'art », disait-il. « Ce qui m'importe est d'atteindre des moments et des objets qui font histoire dans l'art. » Dans l'émission que nous entendons ici, c'était le moment de la naissance de la perspective, son origine, que faisait toucher du doigt aux auditeurs de France Culture l'auteur de Théorie du nuage. Cette illusion que la perspective invente, avec Hubert Damisch, au micro de Stéphanie Katz, dans Les Chemins de la Connaissance, en 1992.
Toujours sur les traces de cette illusion que la perspective invente, nous décidons aujourd'hui, pour la comprendre ou pour nous l'approprier, de rester au plus près de notre quotidien morcelé, pris entre les bruits de la grande ville et les images de publicité. Point de fuite, point d'origine, rencontre avec Hubert Damisch dans un café parisien.
Ce qui m'a intéressé dans l'histoire de la perspective, et c'est ça qui explique le titre que j'ai donné au livre que j'ai écrit sur ce sujet, l'origine de la perspective, c'est la façon dont l'invention de la perspective répète d'une certaine manière l'invention de la géométrie. C'est-à-dire que cette invention, elle ne prend pas place n'importe où, n'importe quand. Elle s'inscrit sur un fond de connaissances techniques, de connaissances géométriques, de pratiques aussi, qui étaient celles des artistes, qui empruntaient pour une part à la géométrie. Mais elle se détache de tout ce fond empirique, de ce fond technique. Elle s'en détache pour opérer un nouveau départ, exactement comme la géométrie avec Thalès a opéré un nouveau départ. Et l'origine de la géométrie, c'est d'abord quelque chose comme une démonstration. Il va s'agir de fonder en théorie ce qui va ensuite fournir un modèle pour la pratique des peintres, ce que nous entendons, nous, par perspective aujourd'hui. Bien sûr, la perspective, elle est liée à un contexte, mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont l'invention, dans la mesure où elle prend une dimension véritablement géométrique, se détache de ce contexte, exactement comme l'invention de la géométrie au départ. On est entré avec elle dans la sphère de la géométrie, on a rompu avec le contexte pour entrer dans la sphère qui est proprement celle de la géométrie. Alors, pour bien comprendre cela, il faut se référer à ce qu'on présente comme les expériences en forme de démonstration de Brunelleschi, que j'analyse longuement dans le livre en question, des expériences véritablement inaugurales, dont la première en particulier pose à la fois tous les éléments, tous les principes, met en place tout le dispositif qui va être celui de la perspective des peintres. La perspective des peintres qui n'est pas un code, qui n'est pas une grammaire, qui n'est pas quelque chose comme un langage, si vous voulez, mais qui est d'abord un modèle, un paradigme, un modèle offert aux peintres pour qui leur permet essentiellement de penser leur propre pratique. Qu'est-ce que c'est que mettre en scène une histoire? D'abord, pour mettre en scène une histoire, il faut construire une scène. Et c'est ça que va permettre la perspective.
Par quelle machinerie, en fait, Brunelleschi va l'inventer, cette perspective?
Eh bien, il va pas l'inventer. Il y a quelque chose comme une invention. Et tout le problème est de savoir, va-t-on parler d'invention ou découverte dans les textes de l'époque? Déjà, la question est posée. S'agit-il d'une invention ou s'agit-il d'une découverte? Je dirais qu'il s'agit d'une démonstration, en un sens qui importe, parce qu'en italien, vous avez, comme en français d'ailleurs, vous avez l'idée de monstration, la mostratio, la monstration, et puis la démonstration, qui implique un détour, le dé de la démonstration, une prise de distance, quelque chose, une sorte de réflexion sur ce qu'on montre. Alors que fait Brunelleschi? Eh bien, la première opération qu'il fait, c'est de peindre sur un petit panneau de 25 à 30 cm de côté, un petit panneau carré, une tavoletta, comme on dit en italien, et c'est les premières introductions de la notion de tableau, de petit tableau, la table, le tableau. Sur ce petit tableau, il peint le baptistère de Florence, qui se trouve en face de la cathédrale de Florence, qui est lui-même un bâtiment de forme géométrique très pure, un octogone, l'une de ces formes géométriques sur lesquelles la géométrie avait déjà travaillé à ses origines. Et ça aussi, c'est un produit historique. Voilà le contexte. Mm-hmm. C'est d'abord ce produit qui remonte au Moyen-Âge, et même au-delà, mythiquement, puisqu'il aurait été construit sur l'emplacement d'un temple païen. Vous voyez que ça remonte loin. Alors, il avait peint ce petit temple, ce tempietto, sur un petit panneau, donc, tel qu'on peut le voir. C'est comme ça que la description du temple nous présente la chose. Tel qu'on peut le voir quand on se tient à l'intérieur du portail de la cathédrale de Florence, et en regardant le baptistère. Et puis, une fois ayant peint donc ce petit tableau, avec une précision remarquable, qui nous disent les textes, puisque le baptistère de Florence est décoré par des incrustations de marbre très, très minutieuses, et vous imaginez de mettre ça en perspective, ça n'était pas facile. Ayant fait cela, il a percé un trou, un point qui reste à déterminer dans ce panneau, un trou qui était assez large pour qu'on puisse voir au travers de ce trou. Il a alors retourné le panneau. Il a appliqué son œil au revers du panneau, à l'endroit de ce trou, et à travers ce trou, il a regardé le panneau tel qu'il pouvait le voir dans un miroir qu'il tenait à la main à une distance donnée du panneau. C'est-à-dire qu'il voyait à la fois le panneau et puis le baptistère qui était représenté, tout ça réfléchi dans le miroir, jusqu'au trou qui était percé dans le miroir. Je ne pense pas qu'il voyait son œil, mais enfin, il se voyait lui-même se regardant d'une certaine façon, absent, mais se regardant. Alors, qu'est-ce que voulait démontrer ce dispositif ? Il voulait démontrer plusieurs choses, mais il voulait démontrer essentiellement que ce que nous appelons, nous, le point de fuite, et que les Italiens ou les Allemands appellent le point de l'œil, ce qui, au niveau des traductions, pose des problèmes terribles aux traducteurs qui ne comprennent pas de quoi il s'agit et qui confondent point de l'œil avec le point de vue, alors que pour les Italiens et les Allemands, il s'agit de point de fuite. Ce qu'il voulait justement montrer, c'est que par projection sur le miroir, le point de fuite et le point de l'œil se trouvent coïncidés. Je dis bien par projection, c'est le mot tout à fait important ici. Le point de fuite, c'est l'image, comme diraient les géomètres, c'est l'image projective du point de vue. Les deux se trouvent sur une ligne qui est perpendiculaire au plan du tableau, qui traverse le tableau en un point donné, qui est ce point de fuite précisément. Alors je pense que le plus simple, c'est d'imaginer que ce point de fuite, il était percé dans la porte du baptistère, qu'au fond, Brunelleschi regardait le baptistère comme s'il y avait eu là un autre personnage qu'il regardait depuis l'intérieur de cette porte, au lieu marqué de ce trou.
En fait, dans ce renversement du miroir, qu'est-ce qui se renverse dans l'histoire du regard à ce moment-là ?
On peut imaginer, à la limite, que le point de fuite se trouve reporté à l'infini. Et qu'est-ce que ça change du point de vue de la construction perspective ? Ça ne change strictement rien. Et voilà qu'on arrive là à quelque chose qui anticipe de deux siècles. J'aime pas beaucoup ce mot d'anticiper, parce que c'est pas le mot qui convient. Mais enfin, pour aller vite, disons ça. Voilà quelque chose qui annonce, avec deux siècles d'avance, ce qui va être le point de départ, c'est bien le cas de le dire, l'origine, en quelque manière, de la géométrie projective. De la géométrie descriptive d'abord, et puis la géométrie projective, mais qui ne se constituera que deux siècles plus tard.
Qui était Brunelleschi ? Était-il peintre, scientifique, géomètre ?
Brunelleschi, c'était d'abord un grand architecte. C'est à lui qu'on est redevable de ce que nous entendons par architecture florentine de la Renaissance. C'est vraiment le fondateur de cette architecture en manière d'épure, très, très simple, avec des grandes surfaces blanches, rythmées, ponctuées par des tracés gris, des arcades, des entablements, etc., en marbre gris, tout à fait caractéristique de cette architecture. C'était aussi un peintre, puisqu'il a dû pratiquer un peu de peinture, puisqu'il a peint au moins ce petit panneau, un autre sans doute, qui ont existé et on les a perdus comme toujours quand il s'agit d'origine. L'origine, elle n'est jamais assignable, on ne peut jamais en fixer exactement le point, on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est plutôt une tradition qui nous renvoie à cette origine, la tradition qui fait de Brunelleschi l'inventeur de la perspective. N'empêche que ces tableaux, on sait qu'ils ont existé, leur présence est attestée dans certains inventaires de l'époque. Puis ils ont été perdus ils ont disparu à la fin du XVe siècle. Mais ils ont existé, ils sont perdus.
Alors la tradition nous parle aussi d'Alberti quand on parle de perspective. Quelle différence on peut faire entre le rôle d'Alberti et le rôle de Brunelleschi ?
Eh bien, les expériences de Brunelleschi, elles semblent remonter à la jeunesse de Brunelleschi. c'est-à-dire dans les années 1415-1420. Alberti, lui, il est absent de Florence à ce moment-là. Sa famille avait été bannie de Florence et il va rentrer à Florence au début des années 30. Et très vite, il va publier, d'abord en latin, et puis en version italienne, un traité de la peinture, le De Pictura, le Della Pictura. Et la version italienne va être dédiée à Brunelleschi. Hein, ce qui montre bien, bien qu'il ne soit pas fait référence à Brunelleschi ni à ses expériences dans le traité d'Alberti, ce qui montre bien la dette qu'Alberti avait contractée à l'égard de Brunelleschi. Alors Alberti, on peut dire que c'est le texte fondateur. Ce n'est pas lui l'inventeur de la perspective, mais c'est le premier texte fondateur, vraiment, qui nous donne non pas les fondements de la perspective, les fondements théoriques, ceux-là, les pauvres. Pour les avoir, il faut retourner aux expériences de Brunelleschi, ce que j'ai essayé de faire, de les analyser de manière très détaillée pour bien voir qu'il s'agit d'une démonstration qui met en place tout le dispositif tel qu'il va fonctionner jusqu'à nos jours, et avec des variantes bien sûr, mais le principe est acquis à ce moment-là, le principe que cette coïncidence, point de vue, point de fuite, hein, cette coïncidence projective. Ce que va faire Alberti, c'est qu'il va montrer comment ce dispositif permet de construire la scène, une scène au sens d'une scène de théâtre, avec un pavement quadrillé mis en perspective, sur lequel va pouvoir prendre place une histoire, la storia, comme dira Alberti, qui est le grand culte de la peinture. La peinture, elle doit avant tout peindre des histoires, une histoire. Et cette histoire, elle doit, pour pouvoir trouver, c'est ça l'invention du siècle, pour pouvoir trouver à s'articuler en tant qu'histoire, eh bien, elle doit d'abord avoir une scène.
Spokojnju, ważnym stiu. Gdzie ona? Niedziela facilmente.
Qu'est-ce qui vous a passionné, vous, Hubert Damisch, dans cette question de l'origine de la perspective?
Deux choses qui correspondent à une manière de paradoxe. D'abord, ce qui m'intéresse essentiellement dans l'art, c'est de me demander comment ça pense dans l'art. Je dis bien comment ça pense. Il y a une pensée qui est au travail, là, qui ne répond pas nécessairement aux critères, aux formes, aux voies qu'ils ont, celles de la pensée, qui sont telles qu'elles trouvent à s'articuler par les moyens du langage, mais ça pense. Comment les peintres, par les moyens qui étaient les leurs, par les voies qui étaient les leurs, ont-ils mis en place un dispositif qui, deux siècles plus tard, va faire l'objet d'une relève dans la géométrie, d'un nouveau départ, d'une nouvelle origine, si vous voulez, mais qui dépendra de tout ce sol d'expérience que fournissait aux savants, aux géomètres, la pratique des peintres, la pratique de la perspective. Donc, ce rapport entre l'art et la science, rapport entre l'art et la technique aussi, puisqu'il y a... Il y a évidemment un élément technique dans tout ça. Il y avait des pratiques d'atelier, des pratiques empiriques, des trucs, si vous voulez, qui permettaient de construire des perspectives, des dispositifs perspectifs qui n'avaient pas la rigueur de celui de Brunelleschi. Et là aussi, c'est un des thèmes importants du traité d'Alberti que de marquer la différence entre une perspective dite scientifique, avec beaucoup de guillemets, et puis la pratique plus strictement empirique, qui était celle des ateliers. Et puis alors, la deuxième chose qui m'a intéressé, mais là, ça n'allait pas sans quelque agacement. C'est ce qu'il en est de la position que le dispositif perspectif assigne à ce qu'on appellerait le sujet, hein, puisqu'il y a un œil là, qui est placé à l'origine de cette pyramide visuelle qui trouve à se projeter sur un plan, qui est celui du tableau. Alors cet œil et cette pyramide, tout ce dispositif, on a voulu y voir le modèle de la représentation tel qu'il va se constituer au XVIIe siècle, avec des gens, des philosophes comme Descartes et quelques autres, le sujet maître du monde, le sujet en position dominante, en position de maîtrise. Alors je crois qu'il ne sait pas du tout de ça dont il s'agit, hein, parce que ce sujet, il s'échappe à lui-même, on le voit bien dans l'expérience de Brunelleschi, où il est en quelque sorte pris au piège du tableau, il se vise lui-même à travers un trou, et il ne perçoit rien d'autre chose qu'un trou. Tout ceci nous introduit à quelque chose qui est bien familier au lecteur de Lacan, par exemple.
Est-ce que vous pouvez me dire en quoi cette question de l'origine peut nous concerner, nous ?
Nous sommes beaucoup plus imprégnés, beaucoup plus informés au sens de mise en forme, d'une mise en forme, par le dispositif perspectif que ne pouvaient l'être les gens du 15e siècle. Les gens du 15e siècle, ils ignoraient complètement les expériences de Brunelleschi. Il y a très peu de tableaux du 15e et même du 16e siècle qu'on soit en perspective. Ça se compte sur je ne dirais pas sur les doigts de la main, mais enfin, ça se compte vraiment. C'est un nombre relativement infime par rapport à la production picturale de l'époque, les tableaux véritablement conçus en perspective. Au lieu qu'aujourd'hui, nous sommes sommes complètement immergés dans les images perspectives, à commencer par la photographie. Le dispositif photographique est un dispositif entièrement modelé sur la construction perspective. Les images vidéo sont totalement tributaires de modèles perspectifs. Nous vivons véritablement dans la perspective, au niveau, je veux dire, de la communication dite de masse. On n'en a pas fini avec la perspective, certainement pas.
Même si on a essayé d'en finir avec, avec la modernité, on n'a pas réussi.
Je ne crois pas qu'on a essayé d'en finir. Ça serait tout à fait un autre sujet d'entretien. Je pense que l'idée de la modernité, c'est de substituer à une géométrie linéaire, constructive, hein, une autre géométrie qui serait une géométrie essentiellement chromatique. Et là encore, je pense que les peintres Matisse ou Mondrian, selon des voies très différentes, ont ouvert des voies à quelque chose qui pourrait bien ne se mettre en place dans le champ scientifique que dans un siècle ou deux, savoir une géométrie de la couleur, au sens le plus strict du mot géométrie et au sens le plus strict du mot couleur aussi. Mais ça, c'est tout à fait une autre affaire que la perspective.
Non, pas tant que ça. C'est ça que doit nous donner d'abord le tableau. Une chaleur harmonieuse, un abîme où l'œil s'enfonce, une sourde germination. Paul Cézanne.
C'était « Cette illusion que la perspective invente » avec Hubert Damisch au micro de Stéphanie Katz dans « Les chemins de la connaissance ». Première diffusion le 17 mars 1992 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.